Shalom Ouvracha, shalom à tous et à toutes évidemment. Erevtov le Koulam. Erevtov le Koulam. Comme à l'accoutumée, on va attendre juste d'avoir le Ishour de la Rédé de la Régie. Et dès qu'on a le Ishour de la Régie, on peut commencer. Donc, voilà, donnez-moi un petit truc. On est bon? Ouais, c'est bon, ça a l'air de marcher. Yofi, alors c'est parti, on y va. Erev Tov Lekoulam. Aujourd'hui, on va faire un petit cours un tout petit peu particulier. Pourquoi particulier? Eh bien, simplement parce que jeudi prochain, évidemment, on ne pourra pas étudier ensemble jeudi prochain. Ça sera en plein Tisha B'Av. Donc, on sera peut-être un petit peu tous en mode... je n'ai pas les nerfs d'écouter qui que ce soit. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la paracha de Devarim, bien sûr, mais on va devoir parler également de Tisha B'Av, Amit Karev Elenu. Et donc, le cours va être double. Il va également nous parler donc du jeûne et du lien entre le jeûne et la paracha. Et je vais commencer directement par. Bon, je vais éternuer. Excusez-moi. Donc, je voudrais parler d'abord du lien entre le jeûne et la paracha. Parce que ce n'est pas stam. Entre la paracha de Devarim, le livre de Devarim et Tisha B'Av, il y a un lien, Todarba, il y a un lien très profond. Quel est ce lien profond? Eh bien, il est à plusieurs niveaux. Si vous deviez résumer toute la Torah, car c'est le propos du livre de Devarim, de résumer toute la Torah, même pas de quoi, même pas de résumé, mais de repasser sur toute la Torah, telle que Moshe l'entend, quel va être l'événement fondateur sur lequel vous avez envie de passer en premier? Eh bien, si ça avait été moi, j'aurais certainement parlé du Mahamad Arsinaï, j'aurais certainement parlé de la sortie d'Égypte. C'est pas l'événement fondateur d'après Moshe. Pour Moshe Rabbeinu, le premier événement qu'il va falloir rappeler dans le livre de Devarim, eh bien, c'est la faute des explorateurs. La première chose qui va être évoquée dans le livre de Devarim, c'est que Dieu nous a demandé de partir du Har-Sinaï, d'aller en Eretz Israël, et que les explorateurs ont dit nein, et que le peuple a dit non. Et c'est la première chose dont Moshe veut nous reparler dans le livre de Devarim. Évidemment que le lien avec Tisha B'Av est évident. Pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que nous dira la Mishnah dans le traité de Ta'anit que Chamisha Devarim Eru et Avotenu Betisha Be'av. Cinq choses sont arrivées à nos ancêtres à Tisha Be'av. Évidemment, jusqu'à l'époque de la Mishnah. Car depuis la Mishnah, il y a pas mal de choses en plus qui sont arrivées à nos ancêtres jusqu'à nous aujourd'hui. Mais à l'époque de la Mishnah, c'est cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres. Mais quelles sont ces cinq choses? Eh bien, la première d'entre elles, c'est le jour où il a été décrété que nous ne rentrerions pas en Eretz Israël, du moins la génération qui est sortie d'Égypte. C'est le lendemain du retour des explorateurs qui sont revenus le 8 Av, qui se sont plaints, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Et donc, eh bien, Akadosh Baruch Hu, le lendemain, nous dit, bah, vous savez quoi, vous ne rentrerez pas et c'est toute cette génération qui va mourir dans le désert. En d'autres termes, la faute des explorateurs mise en avant par la paracha de Devarim, c'est la première cause de tous les Tisha B'Av de l'histoire. Alors, c'est fondamental parce que depuis près de 1000 ans, la tradition d'Israël fait en sorte, d'année en année, que la paracha de Devarim sera toujours lue avant Tisha B'Av. Ça se comprend, dis-tu. Ça l'embête un peu, Moshe, de ne pas rentrer en Israël à cause de cette faute. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que ça l'embête un peu de rentrer en Eretz Israël à cause de cette faute? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question. Il va falloir que tu précises. En tout cas, le lien est évident. Le lien est évident, mais la question reste quand même tout à fait posée. Pourquoi est-ce que la tradition d'Israël a décidé de mettre la paracha de Devarim juste avant Tisha B'Av chaque année? Est-ce que c'est uniquement à cause de cette corrélation explorateur-explorateur? Est-ce que ce serait parce que dans la paracha, on nous dit un verset qui dit Echa Esa Levadi, Tochachem ou Masachem, Verifrem? Et donc, comme il y a marqué Esa Echa Levadi, comment est-ce que je pourrais garder pour moi tout seul ce peuple-là? Et que ça nous fait penser à la Megillah de Echa, alors on fait le lien. Et les Ashkenazim, en plus, qui lisent ce verset avec l'air de Tisha B'Av, et bien que faisant partie de la tradition ashkénaze, je ne comprends pas qui nous a permis de faire cela, puisque l'air de Tisha B'Av est un air de deuil. Or, nous n'avons pas le droit de montrer des signes de deuil en public le jour de Shabbat. Mais enfin bon, le fait est que ce n'est pas pour ça. Pourquoi est-ce qu'on lit la parasha de Devarim chaque année avant Tisha B'Av? Eh bien, c'est pour une raison fondamentale. Une raison fondamentale que je voudrais développer ici avec vous avant de revenir à ces cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres. Le livre de Devarim, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une répétition. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Chazal, nos sages dans le Talmud, appelleront ce livre Mishne Torah. C'est-à-dire, on a recommencé avec la Torah. En d'autres termes, nous dit la Gemara, dans le traité de Yevamot, que tout ce qui est marqué dans le livre de Devarim n'est qu'une répétition à ce qui a déjà été marqué dans un des quatre livres. Alors, pour certaines mitzvot, c'est une évidence, ça paraît clair, qu'on revient sur certains événements qui ont déjà été dits. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, il va falloir faire des pieds et des mains dans les commentateurs pour expliquer où ça se trouve. Mais il y a une mitzvah qui laisse perplexe pour un temps, aller à Tosafot. Les Tosafot sont interpellés par une mitzvah qui est effectivement marquée dans le livre de Devarim, mais qu'on n'a pas là, on la retrouve pas ailleurs. C'est quoi cette mitzvah? C'est la mitzvah de kritut, gitin, de faire des gitim, de faire des divorces. Bon, évidemment, c'est pas une mitzvah que tout le monde doit réaliser. Si tu peux ne pas réaliser dans ta vie, c'est très bien. C'est-à-dire, mais si jamais tu devenais à divorcer, eh bien ça, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Et donc, Chazal se demande, mais quand est-ce qu'on a parlé des divorces avant le livre de Devarim? Nulle part, c'est marqué, non, Bereshit, non, Shema, Dvarikra, Bamidbar. Donc, eh bien, les Tosfot s'interrogent et vont répondre une réponse extraordinaire. Ils disent la chose suivante. Le divorce vient couper le lien qui unissait monsieur et madame. C'est une brisure, le divorce. Où est-ce qu'on trouve ce qui brise, ce qui coupe, ce qui sépare dans la Torah? Eh bien, diront les Baalei HaTosafot, c'est ce qu'on appelle Ashurot HaRekot. Eh oui, dans le Sefer Torah, il y a entre Bereshit et Shemot, quatre lignes vides. Entre Shemot et Vaikra, quatre lignes vides. Entre Vaikra et Bamidbar, quatre lignes vides. Ces lignes vides sont ce qui fait la séparation entre chaque livre. C'est le Yesod, c'est l'origine de ce qu'on appelle la séparation. Or, il y en a quatre là et quatre là, en tout 12 lignes. C'est ce qui amènera nos sages à dire que dans l'idéal, un get, un acte de divorce, doit compter 12 lignes. Vous allez me dire, non mais il y a aussi quatre lignes entre Bamidbar et Devarim. Non, ça c'est revenir sur ce qu'on a déjà présenté avant. En d'autres termes, la mitzvah de Gittin est présente avant Devarim, dans les Shurot HaRekot. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si on n'avait pas continué la Torah avec le livre de Devarim, la brisure, la coupure, la séparation auraient été la fin de notre relation avec Dieu. Le fait qu'après ces séparations, on continue un autre livre qui s'appelle Devarim montre que même s'il y a séparation, elle n'est jamais véritablement éternelle. C'est la raison pour laquelle on a fixé de lire la parasha de Devarim avant Tisha B'Av. Il n'y a pas de plus grande brisure que Tisha B'Av. Mais sache que cette brisure n'est pas éternelle. Cette brisure, et on va s'arrêter maintenant sur ce qui s'est passé à Tisha B'Av, n'est pas un point final. Il y aura la correction de tout cela. Alors revenons dans la Mishnah. La Mishnah nous dit Chamisha devarim eru et avotenu betisha be'av. Seulement, En fait, ces Chamisha Dvarim sont la suite d'une liste qui a déjà commencé le 17 Tamouz. Chamisha Dvarim Ero et Avotenu Beyudzaïn Betamouz, Ve Chamisha Betisha Beav, nous dit la Mishnah. 5, le 17 Tamouz, et 5, Atisha Beav. Vous imaginez bien qu'il y a un lien. Bien évidemment qu'il y a un lien entre chacun. De quoi s'agit-il ? Le 17 Tamouz, eh bien, il a été interdit. Le 17 Tamouz, la première chose qui est arrivée, c'est le fait que Moshe a brisé les louchot. Ensuite, on nous dit que Saraf apostamus. Je dis n'importe quoi. Ensuite, Batal Atamid. Batal Atamid. Le Korban Atamid a été annulé. Ensuite, troisième chose, c'est que la première brèche dans la muraille de Jérusalem a eu lieu. Ensuite, Saraf Apostamus et Torah, monsieur qui s'appelle Apostamus qui a détruit un Sefer Torah. Et enfin, Ohamad Tselem Ba'echal, une idolâtrie a été mise en place dans le Echal. Les amis, je vous renvoie pour plus de profondeur et plus d'explications. Je vous renvoie au cours que j'ai donné sur le 17 Tamouz, que vous pouvez trouver sur ma chaîne, où j'essaie d'expliquer en profondeur c'est quoi ces cinq choses, mais en résumé très courte. Il s'agit de cinq brisures concentriques qui vont en grandissant. Alors que la première, ce sont les louchot abrit, leur place d'origine, leur place idéale, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Il semblerait donc qu'il y ait une brisure dans le Kodesh HaKodashim. Ensuite, eh bien, il y a eu la brisure dans le Mikdash. On a arrêté de faire les korbanot. Ensuite, la brisure dans la ville. Les Romains, ils sont rentrés. Les Babyloniens, ils sont rentrés. Ensuite, Saraf Apostamus Tatoras, qui a lancé le Mered, la révolte contre les Romains, qui a finalement détruit la terre d'Israël, qui a détruit la Judée. Et enfin, Ohamad Tselem Ba'echal, j'avais expliqué au nom de Manitou et de Habakkuk Hanavi qu'il s'agissait ici du début du christianisme qui voulait mettre une idolâtrie au nom du judaïsme dans le monde entier. En d'autres termes, une brisure concentrique qui monte, qui part du centre de l'univers, le Kodesh HaKodashim, et qui grandit. Tisha B'Av est appelé Moed, c'est vrai, mais on va y revenir. Bekitsour, il s'agit ici donc de cinq brisures, mais attention, cinq brisures qui sont un début, qui sont à chaque fois pas la fin du film, mais un début de problème. On brise les louchot, c'est un début de brisure dans le Kodesh HaKodashim. Mais il y a encore les chivrés louchot, il y a encore les deuxièmes louchot. Donc c'est un début de problème, mais ce n'est pas encore fini. On a arrêté de faire les korbanot, korbanatamid, ça ne veut pas encore dire que le Beth Amikdash a été détruit. Les Romains, les Babyloniens sont rentrés dans la ville, ça ne veut pas dire que la ville est tombée, pas encore. Saraf Apostamus Tatora, c'est le début de la guerre, comme j'ai dit. Ce n'est pas encore la chute de la Judée. Et enfin, Ohamad Tselem Ba'echal, c'est le début de celui qui veut se faire passer pour Israël. On n'est pas encore du tout dans les grandes cathédrales de l'Antiquité qui vont complètement bafouer l'identité juive. Donc ce sont cinq brisures qui sont en fait cinq points de départ. Face à ces cinq points de départ, eh bien, nous avons cinq points d'arrivée dans la brisure, cinq fins de cycle dans les cinq choses qui sont arrivées à Tisha B'Av. Tisha B'Av sont arrivées donc cinq choses à nos ancêtres. La première, les Meraglim, comme on a dit, qu'ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël. La seconde, la destruction du premier temple. Troisième, destruction du deuxième temple. Quatrième, la chute de Beitar. Et enfin, cinquième, Nichrecha Ha'ir. C'est-à-dire que les Romains ont salé ce qui restait de Jérusalem comme symbole pour dire qu'elle ne repoussera jamais. De la même façon que le sel empêche les végétaux de repousser, eh bien, c'était la technique romaine à l'époque pour dire qu'une ville a été détruite et qu'elle ne se reconstruira jamais. On salait le centre de cette ville. Rabotai, il s'agit de cinq conclusions. Prenons le plus simple. La deuxième du 17 Tamouz, qui commence dans le Beth Amikdash, ben, on a la destruction du premier Beth Amikdash. Fin de cycle, évidemment. Pour ce qui est de la deuxième, la brisure de Jérusalem, c'est en rapport avec la destruction du deuxième temple. Car le deuxième temple n'était pas vraiment Beth Mikdash. Finalement, la destruction du deuxième Beth Mikdash, c'est plus la destruction de Jérusalem qui est importante pour nous. Regardez d'ailleurs toutes les directives qui ont été mises en place par Rabban Yochanan ben Zakkai après la destruction du temple et de Jérusalem, pour s'en rappeler, sont des directives qui nous rappellent Jérusalem. Il en existe beaucoup des versets qui parlent du Beth Amikdash. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on se marie, eh bien, avant de briser le verre, on dira « si je t'oublie, Jérusalem » et non pas le Beth Amikdash. En d'autres termes, à l'époque du deuxième temple, ce qui est au centre de toutes les vies, c'est Jérusalem beaucoup plus que le Beth Amikdash. Tout à fait. Non, ils ont pas fait. Les Romains ont fait ça à Carthage, ils n'ont pas fait ça qu'en Israël, hein, bien sûr. C'était un processus classique chez les Romains. Bekitso. Donc la troisième brisure, la première brèche dans la muraille, se termine avec la chute du deuxième Beth Amikdash. Enfin, la quatrième brisure, c'est lorsqu'il y a la chute, le début de la révolte qui amènera à la chute du pays. La véritable chute du pays, c'est quand ? C'est pas après la première révolte. Parce qu'après la première révolte contre les Romains entre 66 et 70, eh bien finalement, la vie a suivi son cours. Les Juifs ont continué à vivre dans le pays, dans tout le pays, dans toute la Judée. Ce n'est qu'après la guerre de Bar Korva que ça y est, il en est terminé de la Judée et que le pays s'appellera Palestine. En d'autres termes, ce qui vient conclure la brèche qui était Saraf Apostamus et Tatora, eh bien, c'est la chute de Bétar. Enfin, on a dit que la dernière brisure, c'était dans le monde entier, ou Amat Selem Ba'echal, Nerrecha Ir. Eh oui, si l'objectif est que Jérusalem ne revienne jamais, je vous rappelle que Jérusalem est censée être hors Shel Olam. Si Jérusalem est détruite, c'est le monde entier qui est dans l'obscurité. La première brisure qu'on n'a pas évoquée, c'était, on a dit, la chute des Luchot Abrit face à eux les Meraglim. Face à eux les Meraglim qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Mazé. Eh bien, lorsque les Meraglim décident de ne pas rentrer en Eretz Israël, à quoi ils portent atteinte? Eh bien, ils portent atteinte tout simplement au témoignage. Au témoignage qui est l'alliance entre Dieu et Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu a dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'il nous emmènera en Eretz Israël. Les Meraglim ne veulent pas, ils viennent briser l'alliance et le témoignage fait à nos ancêtres. Et donc, c'est tout à fait relié aux luchot et doutes qui ont été brisés lorsque Moshe descend du Har Sinaï et voit le veau d'or. En d'autres termes, les cinq brisures du 17 Tammuz sont cinq commencements qui se terminent tous les cinq à Tisha B'Av. D'ailleurs, ce n'est pas du tout anodin. À Tisha B'Av, il y aura cinq interdits. Cinq interdits. Et vous comprenez maintenant qu'ils sont chacun par rapport à un de ces événements qui est arrivé à nos ancêtres. Le premier, Achila. On a pas de manger à Tisha B'Av. Et la Issour Achila est évidemment à mettre en relation avec, on a dit, la faute des explorateurs, le fait qu'on ne rentre pas en Eretz Israël. Car pourquoi on rentre en Eretz Israël d'après la Gemara? Les Chol Mipiria Velisboa Mituva. C'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, dans le Birkat Me'et Shalosh. Tu veux pas rentrer en Israël? À quoi ça te sert de manger? Arrête, l'élévation du matériel au Kodesh, l'élévation de la nourriture, c'est la Madriga d'Eretz Israël. T'as le rotse, Yéfchal Echol. Après, on a dit la deuxième brisure, c'est le Beth Amikdash, et particulièrement le premier Beth Amikdash. Ah, le premier temple a été détruit, on ne peut plus boire. L'amalo. Et bien simplement parce que nous dit la Gemara dans Maseret Souka que lorsque on était au premier temple, les Nevi'im, et particulièrement Yona Anavi, puisaient la prophétie le jour de Simchat Bet HaShoeva. Le jour où on puisait l'eau dans la piscine du Shiloach pour la mettre sur le Misbeach et bénir toute l'eau qu'on allait pouvoir boire toute cette année. En d'autres termes, le Bet HaMikdash numéro 1 a été détruit. Comment tu peux continuer à boire tranquillement? À l'époque du deuxième temple, c'est très différent. Très différent parce qu'à l'époque du deuxième temple, il n'y a plus vraiment de Shrina. Il n'y a plus de prophétie. Par contre, quand on regarde les trouvailles archéologiques de l'époque du deuxième temple, eh bien, on se rendra compte que ce qui était central à Jérusalem, à l'époque du deuxième temple, c'était la notion de Tahara, la notion de pureté, la notion de Mikvé, qui vient de naître à l'époque du deuxième temple. Et on en retrouve partout dans la Jérusalem de l'époque du deuxième temple. Cette notion de Tahara pour le Mikdash est fondamentale, le Beit Sheni, et donc le deuxième temple a été détruit. On ne peut plus se laver, on ne peut plus s'immerger dans l'eau. Assur Rechatsa. Ensuite, on a dit qu'il y avait la chute de Bétar, évidemment. La chute de Bétar, eh bien, c'est finalement la fin de l'espérance messianique, du moins pour un temps. Puisque Rabbi Akiva pensait que Bar Korva devait être le Mashiach. La fin de l'espérance messianique voit la chute de Ikveta di Meshicha, des talons du Mashiach. Comment pouvons-nous encore être avec des chaussures à talons? Il est donc interdit de se chausser de chaussures en cuir. Chaussures en cuir, c'est simplement les chaussures de l'époque, il n'y avait pas d'autres chaussures. Et ça nous rappelle évidemment également la Gemara dans le traité de Shabbat qui nous parle de cette sandale à Messoumar que les Romains avaient l'habitude de porter. La sandale, à l'époque du deuxième temple et après, était surtout le symbole de l'envahisseur romain. Donc, la chute de Bétar, on ne peut pas porter des sandales, des chaussures en cuir. Et enfin, Nichrecha Ir. Nichrecha Ir, Jérusalem est censé ne plus jamais repousser, comme on a dit. Mais Jérusalem, on a dit, c'est le centre du monde, c'est la lumière du monde. Jérusalem, c'est également le lien de vie avec Dieu. Il n'y a plus Jérusalem. Comment tu peux imaginer donner la vie à des générations futures? Et donc, il est interdit d'avoir une relation avec sa femme le jour de Tisha B'Av. Cinq choses qui sont directement liées aux cinq événements de Tisha B'Av. En vérité, je voudrais qu'on aille un petit peu encore plus loin. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin encore dans notre histoire de Tisha B'Av. Si on y réfléchit bien, cinq choses sont arrivées à nos ancêtres, on l'a dit, mais ces cinq choses, Meraglim, mis à part, sont en fait deux et deux. C'est deux choses qui tournent autour du Beth Amikdash et deux choses qui tournent autour de Jérusalem. Et en fait, c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de Tisha B'Av. Jérusalem, le Beth Amikdash. Ce sont les deux dimensions de Tisha B'Av. Ainsi, on comprendra le sens du verset qui nous dit, dans Divrei Hayamim, Lecha Hashem Hagedula Vehagevura Vehatiferet Vehanetzar Vehaod Yichol Bashamayim. Et la Gemara dans Masechet Brachot à la page 28 va essayer de nous expliquer chacun de ces mots. Lecha Hashem Hagedula Vehagevura Vehatiferet Vehanetzar Vehaod. On ne va pas passer sur toute l'explication du Talmud. Ce qui nous intéresse, ce sont les deux derniers. Dit la Gemara, Vehanetzar ze Yerushalayim Vehaod ze Beit HaMikdash. Hanetzar ze Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire, Hanetzar ze Yerushalayim? Qu'est-ce que c'est que cette dimension de Netzar? Eh bien, cette dimension de Netzar, d'éternité, elle est excessivement bien expliquée dans la Gemara de Baba Metzia. Là-bas, dans le Talmud, on nous raconte une histoire qu'on connaît bien, l'histoire de Tanuro Shel Achnai. Oh, une histoire qui est super intéressante, hein, au demeurant, de savoir si quand j'ai fait un four avec des cercles d'argile posés les uns sur les autres, est-ce que ce four-là, il peut recevoir de l'impureté ou il ne peut pas recevoir de l'impureté? Vous allez me dire, cas fondamental. Deux rabbins s'opposent, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. L'un dit qu'il peut, l'autre dit qu'il ne peut pas. Machloket terrible. Sauf que finalement, Rabbi Eliezer est en minorité, mais il n'accepte pas l'avis majoritaire de Rabbi Yehoshua et des Chachamim. Et il commence à donner des preuves que c'est lui qui a raison. Des preuves qui ne viennent pas du Beth Amidrash, mais des preuves qui viennent des mondes supérieurs. Il dit, si j'ai raison, que le caroubier qui est là se déracine et se renracine 100 mètres plus tard. Et c'est ce qui se passe. Rabbi Yehoshua dit, on n'acceptera pas de preuves venant du caroubier. Alors il dit, ok, si j'ai raison que le cours d'eau qui coule du haut vers le bas coule à l'envers, du bas vers le haut. Et c'est ce qui se passe. Rabbi Yehoshua dit, c'est pas une preuve le cours d'eau. Ok, si j'ai raison que les murs du Beth Amidrash s'effondrent. Et les murs commencent à tomber. Jusqu'à ce que Rabbi Yehoshua se lève et dise, mais enfin, mur, que faites-vous? Ça ne vous regarde pas ce qui se passe ici. C'est les Chachamim qui se disputent. Et les murs sont restés comme ça. Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il dit, bon, ben, j'ai un joker. Si j'ai raison, qu'une voix sorte du ciel et dise que j'ai raison. Il y a une voix qui sort du ciel et qui dit, pourquoi vous prenez la tête à Rabbi Eliezer? C'est lui qui a raison, tout le temps. Et Rabbi Yehoshua, il dit, m'en fiche. La voix ne m'intéresse pas. Parce que Dieu a donné la Torah. Et à partir de ce moment-là, Loba Shamaini, la Torah n'est plus dans le ciel. La Torah, elle est ici. Et ici, tu as dit, Acharei Rabim Le'atot, tu as dit qu'il faut trancher à la majorité. Donc, si on n'est pas d'accord avec Rabbi Yehoshua, avec Rabbi Eliezer, et qu'on n'arrive pas à retrouver et à comprendre ses arguments, El Malasot. Le lendemain de l'histoire, la Gemara continue et nous raconte que Rabbi Nathan a rencontré Eliyahu Hanavi. La Malo. Et à ce moment-là, Rabbi Nathan lui dit, dis-moi Eliyahu, hier, tu te rappelles le balagan qu'il y a eu au Beth Amidrash? Dis-moi, comment Dieu a réagi au moment où il y avait le balagan et Rabbi Yehoshua l'a dit, Lo bashamayimi, acharei rabim la'atot? Et bien la Gemara nous raconte que Eliyahu lui a répondu que Dieu a souri et il a dit, Nitzruni banai, nitzruni banai. On a l'habitude de le traduire, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. En d'autres termes, éphémère. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Nitzruni banai, ça veut dire emasu oti netzach. Ils ont fait de moi une éternité. Parce que la halakha se continue de génération en génération et se dispute de génération en génération. C'est ce qui rend le message d'Akadosh Baruch Hu éternel. Alors, bataille, c'est parce qu'on a attendu Jérusalem pendant 2000 ans, qu'on a dit l'an prochain Jérusalem, qu'on a fait toutes ces halakhot pour se souvenir de Jérusalem pendant 2000 ans, que Jérusalem est devenue éternelle. En d'autres termes, à Netzach Zeyerushalayim. Qu'est-ce que représente Jérusalem pour nous? Le lien avec l'éternité. Avaz Mazebet Amigdash. Eh bien, on nous dit Hod Zebet Amigdash. Hod Zebet Amigdash. Mazé Omer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Si tu veux comprendre ce que ça veut dire, vers Hod Zebet Amigdash, eh bien, je te ramène. Hop là, attends voir, voilà, je l'avais préparé quelque part. Je te ramène à ce moment-là, si tu veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, Ve'ahod Zebet Amigdash. Eh bien, je t'amène, si tu veux, au livre de Daniel. Au livre de Daniel, chapitre 10, verset 8, nous dit, Ve'ani nisharti levadi. Va'ere et amara agedola et amara agedola azot velo nishar bikoach. Daniel nous parle de la prophétie qu'il reçoit et il dit velo nishar bikoach. C'est comme si on avait aspiré toute ma vitalité. Et regardez ce qu'il dit. Vehodi ne'efach alai lemashrit. Hodi Ne'efach. Ahod Sheli Afouch. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo nishar bi koach. C'est quand mon hod, il est afouch. Ma'anien. Avalmazé. Ahod afouch. Aotaya hod afouch. On le connaît. On le connaît parce qu'on va le lire dans la Megillah de Echa, à Tisha B'Av. Par exemple, au chapitre 1, verset Yud Gimel, nous dit le prophète Jérémie, « Mimarom shalach esh be'atzemotai vayirdena parash reshet l'eragle ashiveni achor netanani shomema kol ayom dava. » Hod à l'envers, c'est davé. Davé. Dalet, vav, hey. C'est l'inverse de Hod. Alze, aya, davé, libenu. On va dire à Tisha B'Av. Aval, qu'est-ce que c'est davé? Eh bien, pour comprendre qu'est-ce que c'est davé, dava, eh bien, il faut remonter dans le livre de Vayikra. Dans le livre de Vayikra, il fait mention là-bas tout simplement, chapitre Kaf, chapitre 20, verset Yud Chet, verset 18. Veish asher ishka vetisha Ezra, veish asher ishka vetisha dava, vegila et ervata et mekom aira, veigilta et mekor damea, venichretu shneem mikerev amam. Dava, c'est un autre mot pour parler de la isha nida. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez très bien ce qu'est une isha nida. Une isha nida, c'est une femme qui vient d'avoir ses menstruations. C'est-à-dire, c'est une femme qui avait un potentiel de vie. Ce potentiel de vie est mort. En d'autres termes, davé, c'est lorsque la vitalité m'a complètement quitté. Vani met. Zed davé. À Hod, c'est l'inverse. Hod, c'est le lien avec la vie. Ve'a Hod, c'est Bet Amikdash. En d'autres termes, Bet Amikdash, c'est la source, c'est le lien avec la source de vie. Quand tu vas au Bet Amikdash, tu te rattaches à celui qui donne la vie. Pashut. Anetzar ze Yerushalayim ve'ahod ze Bet Hamikdash. L'éternité et la vie. C'est donc ça qu'on a perdu à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on a perdu deux fois la vitalité. Deux Bet Hamikdash qui ont été détruits. Gam ha'chayim ba'olam hazeh ve gam ha'chayim ba'olam haba. On n'était rien sans le Bet Hamikdash. Et par deux fois, on a perdu Jérusalem. Eh oui, par deux fois, on a perdu Jérusalem. On a dit, lorsqu'il y a Venir Rechaïr et Nefilat Beitar, qui marque la fin de la révolte sur la, dans laquelle, je vous rappelle, qui avait marqué les Geoulat Tzion Verushalayim sur les uniformes juifs pour la libération de Jérusalem, comme dans la Grande Révolte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tisha B'Av est un jour terrible. Nachon. Tisha B'Av est un jour terrible, mais pourtant on a dit, on lit le livre de Dvarim avant, enfin le Sefer, le Parashat Dvarim avant, pour te rappeler que malgré la terreur que nous amène Tisha B'Av, eh bien on sait qu'il y a quand même quelque chose de positif. De positif? Qu'est-ce qui peut bien y avoir de positif à Tisha B'Av? Ben, c'est pas chute. À Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanoun. On ne dira pas Tachanoun à Tisha B'Av. Là, Malo. Pourquoi on ne veut dire... Ben, parce qu'il y a marqué dans la Megillah. Vekara alai moed. Comme tu disais tout à l'heure à Alex. Vekara alai moed. Lishbor bachurai. Non pas Vekara ta, et la Vekara alai moed. Lishbor bachurai. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, Vekara alai Moed? C'est Moed. Moed comme Shrodesh, Shabbat, Pesach, Moed. Ken. Tisha B'Av est une rencontre terrible pour l'instant avec Akadosh Baruch Hu. Mais rencontre tout de même. Et comme nous l'a dit le Sefer Zecharia, c'est un des jeunes qui évidemment va se transformer en Yom Tov. Et pas Stam Yom Tov, et la Moed. Et c'est la raison pour laquelle on ne dira pas Tachanoun à Tisha B'Av. Mais c'est quoi ce point positif? Eh bien, ce point positif, il est que, en fait, Tisha B'Av a quand même quelque chose pour nous de calme. C'est quoi? Eh bien, le matin de Tisha B'Av, on va lire une partie de la Torah. On va lire une partie de la parasha de la semaine prochaine, parasha de Vaetranan, qui nous dit « Ki tolid banim uvne banim velo shantem ba'aretz » On va lire toute la parasha qui nous explique où Moshe nous rappelle que si jamais on part en cacahuète complètement, on part en exil. Dazma. Le fait qu'on parte en exil de temps en temps fait en sorte que Am Israël ne soit pas complètement détruit. Je m'explique. Il y a un truc qui est très bizarre quand même, c'est que, j'ai dit, on ne dit pas Tachanoun à Tisha B'Av, mais que lorsqu'on parle de la destruction du Beth Amikdash, dans le livre de Tehilim, ça en devient un mizmor. Et oui, on nous dit dans Tehilim, mizmor la Asaf, ba'u goyim benachalatecha. Et la Gemara pose la question, elle dit, ma mizmor la Asaf, kina la Asaf, on devait dire des kinotes. Ma mizmor, en quoi c'est un louange que le Beth Amikdash a été détruit? Et la réponse de la Gemara est très simple. Eh bien, parce que la destruction du Beth Amikdash, l'envoi en exil, a montré que Dieu a mis sa colère contre les pierres et le bois, mais pas contre le peuple juif. Le peuple juif a survécu. La parasha de Vaetranan, de Kitolit, Banim, Mouvne Banim, nous explique que, à l'inverse de nous, les Cananéens sont tellement tombés qu'ils ont été complètement détruits. Pour nous, Tisha B'Av sert, si vous voulez, de soupape de sécurité. Le jeûne de Tisha B'Av sert de soupape de sécurité pour dire la chose suivante. Si jamais Am Israël part en cacahuète complètement, alors ben, on ouvrira la soupape, on les fera partir en exil un peu, ça les calmera. Et comme ça, on ne sera pas obligé de les détruire comme on a détruit les Cananéens. En d'autres termes, les malheurs qui nous sont arrivés à Tisha B'Av sont des malheurs, il n'y a pas de débat. Mais on est toujours là. On est toujours là. Et non seulement on est toujours là, mais après 2000 ans de malheurs, et en fait, si on remonte jusqu'aux explorateurs, c'est après 3500 ans de malheurs, toujours à Tisha B'Av, aujourd'hui, on est capable d'en tirer des leçons et de corriger pas mal de choses. Eh oui, on a corrigé pas mal de choses déjà. Bah, la faute des explorateurs, Baruch HaShem, on l'a corrigé. Ça y est, on est rentré en Eretz Israël. De la même façon, Jérusalem, Baruch HaShem. Vanetzar Zerushalayim, 1967, on est là, Baruch HaShem. J'ai envie de te dire, bah, Jérusalem n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui, aussi grande, aussi forte qu'aujourd'hui. Beth Amikdash Adainlo. Beth Amikdash Adainlo. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le point sur lequel on doit travailler à Tisha B'Av, c'est notre reconnexion avec le Beth Amikdash. Je le dis parce qu'en ce moment, on ne connaît pas le Beth Amikdash. Il est temps de le connaître. Oh, combien il est temps de le connaître. Vous savez, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 5 choses qui sont arrivées à nos ancêtres à le 17 Tammuz, qui était un point de départ. 5 choses qui sont arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av, qui était une sgira de la destruction. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut également bah, une correction. Si on a dit que Tisha B'Av va un jour se transformer en Moed, vous savez comme moi qu'un Moed, ça dure combien de temps? Moed, bah, il y a un doute. C'est 8 jours. Donc Tisha B'Av, quand il va se transformer en Simra, il devra être Moed. Donc Tisha, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça, c'est le 7e jour de Pessah. Le 8e, c'est Bichlal. En d'autres termes, vous savez, dans la Torah, les Moadim, c'est 7 jours plus 1. 8 jours, parce que 7 plus 1. On a dit 7 jours de Pessah plus Shavuot, 7 jours de Sukkot plus Shmini Atzeret. Rabotai. Donc ça veut dire que quand Tisha B'Av va devenir une fête, Mamash, quel sera son dernier jour de Yom Tov? Tout B'Av. Tiens, comme de par hasard, à Tout B'Av est arrivé aussi quelque chose, quelques événements à nos ancêtres. Combien ? 5 plus 1, 2 secondes, on va y revenir au 1. Mais 5 choses sont arrivées à nos ancêtres à Toubéav qui ont fait que c'est une journée extraordinaire, Toubéav. Mais quelles sont ces choses qui sont arrivées à nos ancêtres à Toubéav ? Qu'est-ce qui fait que Toubéav, c'est un moment aussi extraordinaire ? À tel point que la Gemara va nous dire « Lo ayu yamim tovim le Israël » que Yom Kippour et Toubéav, c'est les journées les plus extraordinaires du peuple juif. Ah, toi, tu dis que David, il n'était pas Ashkenaz. Et c'est pour ça qu'il a dit Mizmor et pas Kinot. Ah là là, je suis désolé de ne pas être d'accord avec toi. Je ne peux pas être d'accord avec toi quand tu dis que David, il n'était pas Ashkenaz. David, il était forcément Ashkenaz, puisque David est un descendant direct de Adam Arishon. Or, Adam Arishon est un Ashkenaz. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, puisque Dieu lui dit, Va'yikra Hashem Elokim El Adam, Va'yomer Lo Ayeke. Donc, si tu veux, En Mala Asot, vu que Adam est un Yeke, As David, son successeur, est un Yeke aussi. Mala Asot. Si tu commences avec les boutades, je réponds. Bekitsour, 5 choses sont arrivées à nos ancêtres à Toubéav, qui sont à chaque fois les corrections des brisures qui ont été mises en place à Tisha B'Av. D'abord, la première chose, Paskou Metem Midbar. Les morts du désert dus à la faute des explorateurs se sont arrêtés à Toubéav. Vous le saviez, chaque année, à Tisha B'Av, les gens creusaient leur tombe, rentraient dedans, il y en a qui se relevaient le lendemain matin et d'autres qui ne se relevaient pas. La 40e année, tous ceux qui restent ont creusé leur tombe, ils rentrent dedans le soir, le matin, tout le monde se relève. Alors ils se sont dit, peut-être qu'on a mal compté, c'est peut-être pas Tisha B'Av. Alors ils recommencent, rebelotent. Et comme ça pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'ils voient la pleine lune. Et quand ils voient la pleine lune, ils disent, bon, alors c'est sûr qu'on a passé le 10, qu'on est au 15. Et tout le monde est vivant. Donc c'est la preuve que la Klala est terminée. Et donc, grande simcha, que ça y est, Paskou mettait Midbar Lamout. Ensuite, deuxième chose qui est arrivée à Toubéav, c'est quoi ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé à Toubéav ? Eh bien, je vais vous dire. Il y a plein de choses qui se sont passées à Toubéav en plus de Mettez Midbar, de la fin de ceux qui sont morts et dans le désert. D'abord, Outrou Shvatim, Lavoz et Bazé. Les morts de Bétar ont été permis à être enterrés. Shevet Binyamin, Balakal, qu'on a permis aux Binyaminites, si vous voulez, de revenir au Bet Amikdash, de revenir dans le peuple juif. Et enfin, on a annulé les Chomot qui empêchaient de revenir au Bet Amikdash. Si on a dit que le premier, que les Mété Midbar ont arrêté de mourir, c'était directement lié à Tisha B'Av, c'est-à-dire au premier Tisha B'Av, c'était évident, eh bien, en fait, les autres vont dans le bon sens. On a dit que c'était aussi la destruction du premier temple. C'est à ce moment-là qu'on a mis des Chomot pour interdire aux Juifs de venir à Jérusalem au Bet Amikdash. Quand on a enlevé ces Chomot-là, eh bien, en fait, ça a redonné la permission aux gens du Tsafon, aux Mamlechet Tsafon, de revenir au Bet Amikdash. Bitou la Chomot, c'est ce qui permet de revenir au Bet Amikdash. On a dit, le premier Bet Amikdash, c'est lui qui était vraiment le Bet Amikdash. Ensuite, on a dit, Utar Shevet Binyamin Lavo la Kaal. Après l'histoire de Pilegesh Bagiva dans le livre de Shoftim, eh bien, la tribu de Binyamin a été complètement mise de côté. Et personne ne voulait se marier avec eux. C'est à Toubéav qu'on a permis à Binyamin de revenir dans le peuple juif. C'est-à-dire, c'est à l'époque de Toubéav qu'on a réuni enfin le Shevet Binyamin. Binyamin, c'est Jérusalem. Il n'était plus persona non grata. Enfin. Et puis après, il y a eu la permission d'enterrer les morts de Bétar. Car oui, après la guerre de Bar Korva, Adrien, ce rachat, a interdit d'enterrer les morts de Bétar qui devaient joncher les rues de Bétar. Et ce n'est qu'après qu'un nouvel empereur arrive, et Antonin, Antoninus, eh bien, qu'ils ont pu enterrer les morts de Bétar. Donc directement lié avec les morts de Bétar, la chute de Bétar. Et enfin, on a dit « Utar Shvatim Lavoz et Bazé ». Effectivement, que les tribus pouvaient se marier entre tribus. Yehoshua avait interdit à chaque tribu de se marier à l'extérieur de la tribu. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque de la conquête tribale par tribu, et donc il fallait que chaque tribu reste avec sa tribu. Mais une fois qu'on a conquis la terre d'Israël et qu'on s'est implanté, eh bien, on a enlevé cette xéra de Yehoshua. Et enfin, les Juifs pouvaient se marier entre eux comme ils voulaient, Ashkenazim, Sfaradim, l'homme échané, et ça s'est passé tout béav. Et ça, c'est directement lié avec un Netzach qu'on a mis du sel sur la ville de Jérusalem. Et parce que ce n'était pas que pour Jérusalem, c'était pour porter atteinte finalement à toute l'identité d'Israël. Or, on le sait très bien que la ville de Jérusalem est celle qui réunit tout le peuple d'Israël. Et donc, puisqu'on a permis Shvatim Lavoz et Bazé, alors, eh bien, lorsqu'on va corriger cela, ce sera le moment où on pourra se réunir avec nos femmes pour retourner dans cette dimension de vitalité pleine. Le livre de Dvarim et la paracha des Meraglim est lu juste avant Tisha B'Av pour que tu te rappelles quelle a été la grande erreur du désert. Pourquoi Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, nous dit dans la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu nous dit Gambi Tanaf Hashem Biglalchem. Je rentrerai pas en Israël à cause de ça, à cause des explorateurs, nous dit Moshe. Pas à cause du bâton et du rocher. Pourquoi ? Il n'a pas participé aux explorateurs, lui. Il voulait rentrer en Israël, Nahon. Mais lui, quand les gens ont peur, il a dit, vous inquiétez pas, c'est Dieu qui va faire des miracles. En d'autres termes, pour Moshe Rabbeinu, la terre d'Israël est un endroit de miracle, où c'est Dieu qui gère, et nous, on est spectateurs. À cause de ça, Moshe ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Car rentrer en Eretz Israël, c'est comprendre que c'est maintenant à moi de corriger. De la même façon que c'est moi qui ai créé les conditions pour les brisures de 17 Tammuz et de Tisha B'Av, c'est à moi de corriger pour faire de Tisha B'Av une journée de fête extraordinaire. On lit la paracha de Devarim avant Tisha B'Av, comme on a dit, pour se rappeler que la brisure n'est pas la fin de l'étape, n'est pas la fin du film, et qu'on va pouvoir se retrouver une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et on lit la paracha de Devarim pour savoir que maintenant, ce n'est plus le temps d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu fasse pour nous, mais c'est le moment où on prend notre décision nous-mêmes et on dit « il est temps pour nous de corriger nos erreurs pour tout simplement arriver à une nouvelle dimension, la dimension où on retrouvera enfin à Hod, chez l'anneau, le lien avec la source de vie au Beth Amikdash, pourquoi pas cette année, Bimera Beyamenu. Amen. Shabbat Shalom. Et en espérant qu'on n'ait pas besoin de jeûner la semaine prochaine, et qu'on se retrouve tous au Beth Amikdash sans masque. Amen, ve amen. Et puis, si on est obligé de garder le masque, eh bien, on gardera le masque. À bientôt, les amis. Shabbat Shalom.